Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
Hello tout le monde, on reçoit cette semaine un entrepreneur encore méconnu des radars français. C'est pourtant l'un des plus prometteurs. On vous parle aujourd'hui de Saturnin Punier, l'un des associés de Sam Altman sur l'une de ses boîtes les plus disruptives, Worldcoin. Du coup, Worldcoin, c'est un protocole open source ayant pour objectif d'offrir à chaque individu un accès à l'économie mondiale, tant visant à apporter davantage de transparence à nos identités en ligne. Hello Saturnin, comment ça va?
Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis content de parler avec vous et de parler de Worldcoin.
Merci à toi. On sait que tu vis entre San Francisco et Berlin. Du coup, c'était très dur de t'avoir sur la podcast parce qu'on n'est pas sur le même time zone, c'est pour ça. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors moi, je viens du sud de la France à l'origine. Et j'ai ensuite passé beaucoup de temps à Londres où j'ai étudié en sciences informatiques et j'ai décidé de partir aux États-Unis ensuite. Donc, je suis allé à Caltech, c'est une université américaine, faire un peu de recherche et j'ai ensuite démarré Worldcoin avec le reste de l'équipe aux États-Unis. Donc, voilà, c'est un résumé à haut niveau.
Très clair. J'ai pu voir à travers ton blog, tu animes un blog aussi, un peu comme Fabrice Grinda, on a sur son podcast, nos anciens hosts. On a un peu eu toute ton histoire, mais bon, on va rentrer plus en détail dessus. Donc, tu es français. Tu pars après le bac, donc tu es parti à Imperial étudier Computer Science Engineering. Déjà, pourquoi être parti en Angleterre plutôt que faire la prépa, le système classique de la prépa, qui sont quand même de top écoles en France? Qu'est-ce qui t'a poussé à 18 ans ou 17 ans et demi à partir de chez tes parents aussi loin, enfin pas aussi loin, mais dans une nouvelle ville, une nouvelle langue, une nouvelle culture, voilà.
Donc moi j'ai fait un lycée international à Aix et donc dans ce lycée j'ai fait le bac international et j'ai appliqué ensuite à l'étranger et en France, mais le système français est un très fort cours français. Je n'ai été accepté en aucune prépa française, malgré le fait que j'ai eu 43 sur 42, donc je ne fais pas la meilleure note au bac. Ils m'ont quand même refusé dans toutes les prépas. Et donc, je suis parti à l'international. De toute façon, je comptais quand même partir à l'international. Mais bon, ça a été une confirmation que le système français n'est pas adapté à ce que je voulais faire. Et je suis donc parti à Londres.
Ok. Ok, très clair.
Et du coup, on a vu que tu avais suivi un cursus simultané en économie et en finance et même en sciences politiques avec l'université de Sofia à Nice. Est-ce que, déjà, pourquoi t'as pris cette décision? Et est-ce que le fait d'avoir des connaissances un peu pluridisciplinaires te sert toujours aujourd'hui dans ta vie de tous les jours?
Alors, c'est une bonne question. Donc, il y a plusieurs raisons d'avoir fait ce double diplôme. Bah, c'était deux entités complètement indépendantes, donc c'est pas un programme qui s'offre ensemble. Moi, j'étais à plein temps en Angleterre, à Londres, à Imperial College, où je faisais mes études en sciences informatiques. Mais donc, pour payer mes études, il fallait que je me les finance tout seul et j'avais besoin d'argent. Et donc, en France, ils offrent des bourses, mais seulement si on étudie à l'université française. Et donc, pour pouvoir payer mes études à Londres, et bah, j'ai décidé de faire ce master en France en sciences économiques, mais aussi parce que je trouvais ça super intéressant de faire ça. Et donc, au final, j'ai fait les deux masters en parallèle, en partie à Londres, en partie à Nice, et je prenais juste l'avion pour faire les examens pour aller à Nice. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, je pense que oui, bien sûr, avoir des connaissances pluridisciplinaires, c'est très utile, en particulier quand tu es entrepreneur, parce que il y a énormément, déjà les choses bougent très vite, donc souvent ton expertise ne va pas être valide sur le très long terme, donc c'est bien de connaître dans beaucoup de sujets. Et deuxièmement, beaucoup de connaissances qui viennent d'autres sujets peuvent être appliquées dans ton sujet d'intérêt à la santé. Et donc, ça, c'est pas complètement indépendant, c'est loin de là. Et donc, c'est quelque chose qui est très utile d'avoir une curiosité générale et d'apprendre un peu tous les sujets.
C'est clair, ok. Donc, tu nous as dit que tu as réussi à choper une bourse pour tes études en Angleterre. Est-ce que c'est déjà un de ces challenges? Tu étais déjà confronté donc très jeune, le fait de refuser en prépa, obligé de partir en Angleterre, de faire une bourse, d'obtenir une bourse pour payer des études, en plus de ça, faire deux écoles en même temps, entre guillemets. Déjà, un de ces challenges, est-ce que c'est ce qui t'a poussé aujourd'hui, enfin, ce qui t'a forgé, ça t'a forgé ton caractère d'entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a poussé derrière à... Est-ce que cette expérience-là était formatrice, entre guillemets?
Je pense qu'elle a été formatrice, mais comme enfin, toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie jusqu'à maintenant, elle a été formatrice. Je pense que, du moins pour moi, ce qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat, c'est que depuis très jeune, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. J'aime pas ce qu'on me dise quoi faire et ce qu'on m'impose des limites. Et je pense que ça s'est traduit dans le monde du travail après, par le fait que j'avais pas envie de bosser pour une autre entité. Et je préférais faire mes propres erreurs et mes propres choix. Et donc, j'ai été attiré par le monde de l'entrepreneuriat. Et en étant allé à l'université, en apprenant plus sur le monde des VC, le monde des startups, ça m'a paru assez naturel de me diriger vers ce côté-là de la tech.
Ok, génial. Donc ensuite, après Impérial, tu pars à Caltech, donc comme vous avez dit. Donc pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est une des universités les plus réputées dans le monde pour ce qui est de la recherche, aspect ingénierie, aspect théorie. C'est du même acabit de Stanford, même plus accès recherche encore plus, un peu plus niche. Comment s'est passée l'expérience passer de France en Angleterre aux US, c'était pas un choc culturel? Et c'est quoi la grande différence entre ces trois pays, si tu devais résumer ça aujourd'hui?
Alors, je pense que l'arrivée en Angleterre, c'était le plus gros choc parce que déjà, je parlais très mal anglais quand je suis arrivé en Angleterre, donc je comprenais la moitié des choses qu'on me disait, donc ça m'a pris un moment avant de rattraper à ce niveau-là.
Oui.
L'arrivée aux États-Unis, un peu moins parce que ça faisait un moment que j'étais depuis un moment que j'étais dans un milieu international, que j'étais dans un milieu anglais, et donc ça a été, j'étais aussi plus âgé, donc c'était moins un choc. Et je pense que la plus grosse différence, en fait, les différences sont assez, peuvent être mappées de façon assez linéaire entre la France et les États-Unis, avec l'Angleterre au milieu, dans le type de personnes qu'il y a, le type de mentalité et ce qu'on peut y trouver. Donc, je dirais que la France, il y a énormément de différences, donc c'est dur de tout résumer, mais pour les sujets dans lesquels on discute, donc la tech est particulièrement, la France est un peu plus conservateur. Ils ont une aversion au risque un peu plus élevée. Les Anglais sont un peu entre les Français et les Américains, donc ils sont moins d'aversion au risque. Ils sont plus en avance sur la tech parce qu'ils sont plus prêts à tester de nouvelles choses. Et bien sûr, les États-Unis, on peut sentir qu'ils sont beaucoup plus prêts à prendre du risque. Ils ont une vision qui est beaucoup plus grande échelle, beaucoup plus mondiale, alors que la France est beaucoup plus centré sur la France dans les visions de ce qui est construit. Le UK, c'est un peu entre les deux. Et ça, je peux vraiment le voir avec les gens qui sont là-bas. Ça se ressent. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller en Californie, parce que pour le type de projet que je voulais construire, ce sont des projets à très grande échelle et de deep tech en façon générale. Ça demande énormément de capital. Ça demande du capital qui est prêt à prendre beaucoup de risques. Et ça, on le trouve vraiment. On trouvait très très peu en France il y a 5 ans. Maintenant, ça s'est amélioré et ça continue de s'améliorer, mais ça n'a toujours rien à voir avec les États-Unis où c'est beaucoup plus facile de lever le type de capital que tu as besoin pour ce type de projet. Trouver les gens qui sont prêts à te suivre et qui comprennent ce genre d'idées.
Très clair. Mais est-ce que par exemple, si tu avais voulu lancer une start-up un peu plus moins innovante, plus dans les pas dans les normes, mais plus par exemple si, copier une idée de start-up, de marketplace et la ramener en et la ramener en France, est-ce que tu aurais levé en France ou tu aurais toujours voulu aller lever aux États-Unis?
pense que si ce qui intéresse quelqu'un, c'est justement de ramener une technologie qui est déjà étrangère en France. Alors oui, ça peut très bien être en France. Il y a les capitaux pour les sujets à moins risque comme ça. Et il y a quand même un marché français et européen. Mais moi, de façon personnelle, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a un peu deux dimensions de ce que tu peux faire pour faire avancer le monde et grandir le GDP. C'est soit tu augmentes de façon complètement horizontale en propagant en diversifiant les technologies autour du monde et en prenant les technologies qui existent déjà, en les ramenant à d'autres endroits et en augmentant la productivité des technologies qui existent déjà, soit tu crées des nouvelles technologies et donc tu es à la frontière de ce qui est possible et tu essaies de pousser vers de nouvelles possibilités. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Donc, pour ramener une technologie qui existe déjà en France, ça m'aurait très peu intéressé. Je pense pas que je l'aurais fait, mais je pense que oui, il y a un marché pour ça.
Ok, super clair. Merci pour ta réponse. Juste avant de basculer sur WorldCoin, on a vu que, enfin, j'ai vu que t'avais travaillé chez des géants de la tech comme Amazon et TransferWise. Même si tu avais mentionné auparavant que tu voulais devenir entrepreneur dans le futur, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ces boîtes en sachant que tu voulais devenir entrepreneur? Et comment tu décrirais la culture à l'intérieur de ces dernières?
Alors la raison elle est assez simple, c'est parce que j'avais besoin d'argent. Hein. Moi, je suis pas financé par mes parents, donc il fallait que je paye moi-même mes études et puis après aussi juste ma vie pour pouvoir monter des startups. Puis après mon déplacement pour aller vivre aux US. Et donc j'ai bossé dans les boîtes de tech. Donc je bossais un peu vers la fin de mes études et j'ai commencé à bosser depuis la troisième année de l'université. Parce que ça me permettait de financer tout ça. Mais c'était assez clair pour moi que j'allais partir dans le monde des startups. Donc c'était seulement, enfin, la première partie, je le faisais principalement pour payer mes études. Après que j'ai fini mes études, j'ai encore un peu bossé pour Amazon. Et après, je bossais aussi à monter ma boîte sur le côté. Et Amazon, c'était un peu plus à temps partiel que je faisais juste pour avoir un revenu. Et par rapport à ce que tu me demandais sur les différences, enfin qu'est-ce qui est que, différence entre les startups et ces grosses boîtes et un peu l'environnement intérieur, je pense que des deux côtés il y a une passion pour la tech et on ressent l'énergie, amener des nouveautés et tout, mais c'est juste beaucoup plus atténué dans les grosses boîtes parce que bien évidemment les gens ont beaucoup moins d'impact au niveau personnel, donc la motivation est moins élevé, même pour les gens très motivés, il y a quand même beaucoup moins qui peut être fait parce qu'il y a beaucoup plus de friction, étant donné que la boîte est beaucoup plus grande beaucoup moins de pouvoir de décision. Donc ça se ressent vraiment, mais d'un autre côté, on ressent quand même que ces boîtes ont énormément de capital et la capacité de faire bouger les choses à très grande échelle. Après, c'est pas forcément les façons la plus efficace au monde, mais ils peuvent le faire.
Ok, du coup pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui veulent devenir entrepreneurs et qui se disent aussi, avant de lancer ma boîte, j'ai envie d'avoir une expérience dans une de ces boîtes de tech, enfin, si j'y arrive, pour me former entre guillemets, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou c'est une perte de temps et qu'il ferait mieux de lancer leur startup directement?
Je pense que il y a beaucoup de gens qui font ça. Et donc, avoir un petit peu de formation, c'est pas forcément mauvais. Mais ce qui est souvent vu, c'est en fait des gens qui vont déjà augmenter leur niveau de vie dès qu'ils commencent à bosser pour une grosse boîte et qui aussi repoussent en fait un peu le moment où il faut partir en start-up en continu. Et jusqu'à arriver à un moment, en fait, ils sont trop habitués aux grosses boîtes et ils ne veulent plus partir. Donc, en fait, tu peux vraiment, enfin, c'est très bien en théorie, c'est très bien sur papier. En pratique, ce qui se passe souvent, c'est qu'après, tu te coinces tout seul dans cette dynamique de vie et en sortir, c'est pas si simple. Et donc, je dirais qu'il faut faire attention à ça. Donc, le golden handcuff, c'est assez réel. de voir des gens qui en fait sont très motivés, mais bon, après plusieurs, même beaucoup d'années, ben voilà, ils ont plus envie de partir. Ils sont coincés là, ils savent plus comment faire, ils connaissent pas cette dynamique, ils n'ont pas le network qui peut servir dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que c'est important à garder en tête.
Totalement d'accord. En plus, on nous dit souvent, va bosser avant d'entreprendre, mais pour apprendre à entreprendre, faut entreprendre en vrai. Enfin, il n'y a pas vraiment de secret. Enfin, il faut se lancer dans le grand bain. Il n'y a pas vraiment d'école en soi, quelle libération même. Il y a des playbooks à suivre après, mais dans la globalité, je pense que quand tu es tout seul, libre à toi-même, c'est là où tu progresses vraiment et tu apprends à entreprendre, entre guillemets, en essayant et échouant. Donc maintenant,
Exactement, j'allais dire aussi ce que j'ai fait, du coup, et que tu peux faire très, très bien, c'est de bosser pour une grosse boîte et en parallèle de commencer à monter ta boîte. Quand tu bosses pour une grosse boîte, tu travailles pas tant que ça, donc c'est vraiment pas si dur à faire. Donc je pense que tu peux aussi faire ça pour faire un peu entre deux, quoi.
Ah ouais, tu travailles pas tant que ça.
Non, dans
Enfin,
des grosses boîtes,
c'est.
dans des grosses boîtes, déjà, tu travailles pas les week-ends, donc tu peux bosser le week-end. Puis tu finis pas à minuit, hein, tu finis, je sais
À
pas quel
5 heures du
point.
soir.
À qui tu bosses, mais tu finis entre 5 h et 8 h, t'as quand même beaucoup de temps qui te reste, quoi.
Ouais, d'accord. Donc pour revenir maintenant au Welcome, c'est le vif du sujet de ton histoire aujourd'hui, parce que tu es assez jeune. T'as quoi, tu as 28 ans aujourd'hui, 27?
27 ans.
27 ans. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus sur Worldcoin, comment ça s'est fait, la genèse et de Tools for Humanity, ton rôle au sein du projet et votre vision?
Alors, c'est beaucoup de questions en une.
Ouais.
Répondre en séquentiel. Donc là, déjà, la genèse, ça a été, comme je l'ai mentionné, moi, je suis parti en Californie dans le but de monter une prochaine boîte parce que je sentais que c'était un meilleur environnement pour ça. Donc, je passais beaucoup de temps soit à San Francisco, soit à essayer de trouver des gens qui sont aussi dans l'entrepreneuriat quand j'étais à Caltech. Et au fur et à mesure, en parlant aux gens, parce qu'à Caltech, il y a très peu de gens qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est une université très académique et très orientée recherche. Donc, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais j'ai entendu qu'il y a d'autres gens. J'ai rencontré une autre personne qui était aussi intéressée par l'entrepreneuriat. Vu qu'il y en a très peu à Caltech, bah, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner son nom? Et je l'ai ensuite contacté par Messenger. Et on s'est dit qu'on allait, en fait, eux, ils étaient sur le point de partir de Caltech. C'était un groupe d'Allemands qui faisait de la recherche en physique. Et d'aller en Californie, pardon, à San Francisco. Et je leur ai proposé d'aller discuter rapidement avant qu'ils partent, pendant 30 minutes. Et donc, 30 minutes avant qu'ils partent, ils n'étaient pas à Caltech, ils revenaient dans 3 semaines. Donc, 3 semaines plus tard, ils revenaient juste récupérer leurs affaires. On s'est rencontrés 30 minutes. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai décidé de... Donc, il n'y avait pas vraiment, on a, il n'y avait pas de continuité, on a rien dit de spécial, mais j'ai décidé de partir à San Francisco pour aller les voir juste après. Donc, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti à San Francisco, je leur ai un peu dit, mais pas trop, je suis juste arrivé devant chez eux, je leur ai dit, bon, bah, venez, on bosse ensemble. Et on a commencé à bosser ensemble, en fait, à ce moment-là. Et ça s'est très bien passé, c'est très bien entendu. En fait, il y a aussi, dans la même période de temps, on avait rencontré Sam Altman, et on avait commencé à bosser donc sur ce projet. On avait tous l'idée que sur l'intelligence artificielle générale allait arriver très bientôt, et on voulait bosser sur quelque chose de lié à ça. Et on a eu cette idée de construire une infrastructure pour l'intelligence artificielle générale qui manquait en ce moment. Et après, on a itéré au fil des mois, des années à construire plus spécifiquement ce qui manquait. À tout ça et pour arriver vers justement cet orbe et après le projet comme il est maintenant. Donc ça s'est fait avec beaucoup de rebondissements et de hasard. Et le projet comme il est à l'heure actuelle, alors il y a plusieurs façons de le décrire, d'écrire ce qu'on fait en fait, une façon court terme, une façon moyen terme et une façon long terme, je dirais. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'objectif à très long terme et l'utilité du projet à très long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Donc, pour le très long terme, nous, ce qu'on essaie de construire, c'est une infrastructure pour l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle avancée. Donc, OpenAI travaille sur la création de cette intelligence artificielle avancée.
AGI, ouais.
AGI, exactement. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est construire une partie de l'infrastructure qui manque à Internet et au monde pour pouvoir faire en sorte que cette intelligence artificielle générale soit bénéfique à l'humanité de façon générale. Et donc ça, c'est deux parties. C'est une première partie identitaire, donc un moyen d'identifier les gens et de différencier les gens des bots sur Internet à échelle globale, et donc de façon anonyme. Donc il n'y a pas de technologie qui permet de faire ça à grande échelle. Et encore moins une fois que les bots seront encore plus avancés d'ici une année ou deux. Et la deuxième partie, c'est donc un système financier qui serait global, décentralisé et équitable. Et donc pour ça, on utilise les cryptos. Donc la technologie fondamentale n'est pas différente parce que cette technologie est déjà, ça suffit à la création de cette base. Mais ce qui manque, c'est la distribution globale. Les cryptos, c'est seulement 50 millions de personnes. Il faudrait que ce soit 8 milliards de personnes. Donc nous, on essaie de distribuer donc ces cryptos au niveau global pour que ça devienne une nouvelle couche financière du monde. Ces deux aspects. Et la façon dont on veut le faire, c'est on a créé un appareil qui permet de vérifier si les gens sont uniques. C'est un appareil qui fait une vérification d'iris et peut vérifier qu'on n'a pas vu cette personne parmi les 8 milliards d'autres personnes qu'on aurait pu voir. Ça peut vraiment différencier chaque humain. Et donc, on utilise cette technologie, donc cet appareil qu'on va déployer dans tous les pays du monde et qu'on a commencé à déployer dans tous les pays du monde pour vérifier que les gens ne sont pas déjà venus en fait nous voir. Et s'ils sont en effet uniques, on leur donne déjà leur part de cryptocurrency, on donne une part à chaque personne sur Terre, et on leur donne aussi leur proof of personhood, ce qui est une identité qui peut être utilisée sur Internet pour prouver que tu es bien un humain et non pas un bot quand tu fais une action. Et donc le but de tout ça, c'est de permettre à Internet de survivre à l'arrivée de bots à grande échelle qui seront extrêmement intelligents et de pouvoir vraiment différencier les actions humaines et bots dans tout ça. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites à partir de ça, des bots à grande échelle. Enfin, il y a toutes les actions, enfin, vérification de social media, tu pourrais vérifier que les gens sont bien des humains sur les réseaux sociaux. Et tu peux aussi faire des choses qui sont plus liées à l'AI, comme par exemple Universal Basic Income. Un revenu universel qui est impossible à faire s'il n'y a pas un moyen d'identifier les gens, parce que donc, tu ne peux pas savoir à qui tu as déjà donné. Ça permettrait de faire ça. De l'autre côté, ça permet de faire de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Ça veut dire, étant donné que tu peux faire des votes à grande échelle parce que tu as une preuve que les personnes sont uniques, tu pourrais servir de ça pour faire des votes au niveau de l'humanité sur des décisions sur l'intelligence artificielle et donc de démocratiser les choix de la direction de l'intelligence artificielle. Donc, cette technologie permet aussi de faire ça. Donc, elle permet de débloquer beaucoup de choses qui sont pour le moment impossibles à faire, du moins à l'échelle globale et non pas à l'échelle locale.
Du coup, l'idée, ce serait de vraiment d'intégrer cette technologie, ce World ID, dans toutes les applications, sur Terre pour permettre à chaque individu de s'identifier et de prouver que ce ne sont pas des bots. C'est ça.
Exactement. Enfin, le but, c'est pas de prouver dans l'absolu, c'est de prouver quand une certaine action est faite sur l'Internet. Par exemple, quand tu crées un compte Twitter, tu peux prouver que tu n'es pas un bot. Ou quand tu likes une vidéo, tu peux prouver que tu n'es pas un bot. Ou quand tu veux faire un vote sur une certaine plateforme, tu peux prouver que tu n'es pas un bot. Et en plus, que tu ne l'as pas déjà fait. Donc, c'est deux choses. Tu n'es pas un bot et tu n'as pas déjà fait cette action.
Ok. Et question, c'est quand même assez tranchant comme vision, enfin, de donner du coup à chaque humain la même part de crypto. Du coup, vous avez pour vocation un peu de faire concurrence aux crypto-monnaies actuelles, enfin, aux monnaies actuelles, aux currencies actuelles. L'idée, c'est de remplacer un peu le système économique mondial avec WorldCoin, ou c'est quoi vraiment ce qu'il y a derrière? Parce que c'est un peu une vision communiste, entre guillemets. De donner à chaque humain sa même part de monnaie, donc chaque être humain serait du coup égal et dans un monde où l'IA, l'AGI prend le dessus, c'est quoi un peu
C'est vrai que c'est communiste parce que enfin, de la façon dont on le fait, nous, c'est on donne une part quand tu crées ton compte, mais après, on ne continue pas à redistribuer de façon égale. Donc, on donne une part pour bootstrapper le network. Et ensuite, c'est le free market. Donc, tout le monde peut échanger comme il veut et faire ce qu'il veut avec. La distribution est ensuite purement allocation capitalistique comme tu veux. Mais sur le long terme, dans un scénario, un monde où l'intelligence artificielle générale pourrait générer beaucoup de profits, alors on pourrait se servir de système pour faire un universal basic income. Et donc, avoir ce revenu universel qui permet à tout le monde d'avoir un revenu qui lui vient automatiquement, qui serait généré par l'IA. Mais ça, c'est bien sûr beaucoup, beaucoup plus long terme. Et nous, cette distribution à l'instant T, elle est faite que dans les premiers jours où tu peux sign up pour Worldcoin.
Et juste, je voulais savoir, c'est quoi exactement ta vision de l'AGI? Est-ce que, par exemple, c'est tous les humains seront à la plage en train de siroter des cocktails pendant que les intelligences artificielles feront le travail derrière dans chaque industrie ou à quoi ça ressemble exactement?
Alors, je pense que déjà donner une opinion tranchée sur ce que va être AGI, c'est assez absurde, étant donné la complexité de tout ce qui est en place et le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'avenirs possibles. Et je pense que beaucoup ne sont pas absurdes et ont une probabilité assez élevée. Je pense qu'il y a plutôt plusieurs scénarios possibles. Et notre but, c'est d'amener. D'augmenter la probabilité des scénarios qui sont les meilleurs pour l'humanité, qui vont sûrement arriver d'ici peu. Donc, je pense que les scénarios qui sont probables, c'est premièrement, on arrive à un plafond avec l'AGI et ça ne dépasse pas ce plafond et ça reste là pendant des dizaines ou des centaines d'années. Je pense que c'est peu probable, mais ce n'est pas non plus zéro. Deuxième scénario, c'est que ça, c'est un take-off qui est assez lent. En fait, l'AGI arrive, mais ça prend 20 ans, entre 15 et 30 ans. Et donc, on aura vraiment le temps de voir arriver. Je pense qu'encore une fois, ce n'est pas improbable, mais c'est possible. Le troisième scénario, en termes de timeline, c'est que ça arrive entre 3 et 10 ans. Et qu'on est vraiment très proche d'avoir une intelligence artificielle générale. Et c'est pareil, ça, je pense que c'est quand même une très haute probabilité que ça soit possible. Et dans le scénario où l'intelligence artificielle va arriver, la question ensuite est, est-ce que ce sera bénéfique pour l'humanité ou sera non bénéfique? Je pense que toutes les discussions pourraient être résumées à ça, c'est à quel point on peut être sûr que ça va être une bonne chose d'avoir une intelligence artificielle générale à grande échelle. Et il y a deux écoles. La première, c'est que ça va être génial, il y aura une abondance de tout parce que l'intelligence artificielle générale pourra produire tout mieux que les humains, et donc on n'aura plus besoin de bosser déjà, et tout pourrait être fait par l'intelligence artificielle. Et l'autre extrême, c'est que il y a un risque énorme de destruction massive par plusieurs scénarios, hein, par une intelligence artificielle qui s'améliore toute seule et qui a des valeurs qui sont pas alignées avec les valeurs de l'humanité, qui devient de moins en moins alignée plus l'intelligence artificielle est puissante. Et ensuite, il amène à la destruction de l'humanité, ou par les humains directement, par le fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans des systèmes de combat qui seraient beaucoup trop puissants. Et ensuite, par exemple, d'avoir des groupes terroristes qui ont accès à des drones, de la production de drones en masse, parce que ça devient très facile à faire et que ça devient très dangereux à grande échelle. Ou alors des virus qui sont encore une fois créés par soit des États ou des groupes terroristes. Mais qui seraient ultra puissants du fait qu'ils ont été créés par l'IA et spécifiquement faits pour tuer à grande échelle. Donc, c'est aussi des scénarios où l'IA n'a pas besoin de partir, devenir complètement destructrice toute seule, et ça peut être aussi fait par les humains. Et après, il y a beaucoup de scénarios au milieu où, par exemple, l'IA pourrait aider beaucoup les humains sans enlever le travail totalement. Ça prendrait beaucoup de temps d'enlever le travail et dans un premier temps, l'IA permettrait seulement d'accélérer la productivité des gens et de ce qu'on peut produire, mais il faudra toujours avoir beaucoup d'humains pour que ça puisse se faire. Moi, dans tout ça, je pense qu'il y a quand même une très haute probabilité que l'IA arrive sous peu, donc l'intelligence artificielle générale arrive sous peu. D'ici 3 à 10 ans, ça me paraît très probable. Je pense qu'il y a aussi une grande probabilité des deux côtés que l'IA soit extrêmement bénéfique, mais aussi que l'IA soit extrêmement destructrice. Je pense qu'il n'y a pas une probabilité non négligeable que l'IA soit destructrice, parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont, à mon sens, très valables, encore une fois, où l'IA peut être très restrictrice par son utilisation par les humains, ou même toute seule, parce qu'elle devient super intelligente. Et je pense que pour l'humanité de façon générale, la chose la plus importante sur laquelle travailler à ce moment-là, c'est de s'assurer que cette transition vers l'intelligence artificielle générale pour l'humanité ne signe pas la fin de l'humanité. Parce que même si la probabilité que ce soit destructeur est très basse, eh ben, on n'a vraiment rien de mieux à faire que s'assurer que ce soit encore plus bas. Parce que si le reste des scénarios, c'est que ce soit une utopie, alors les seules choses intéressantes sur lesquelles bosser à cet instant-là, c'est de réduire ses probabilités. Donc si c'est 2%, disons, que ce soit destructeur à l'échelle globale, eh ben, on n'a rien de mieux à faire que de faire descendre à 1%. Si c'est 30%, eh ben, le faire descendre à 20%. Mais de toute façon, si cette probabilité n'est pas zéro, et je pense pas que ça qu'on peut dire que ça peut être zéro. Je pense que l'humanité, de façon générale, n'a rien de mieux à faire à s'assurer que s'assurer que cette probabilité est réduite le plus possible. Donc, je pense que le focus du monde à sa santé, ça devrait être de la réduire les dangers de l'AGI et ensuite s'assurer de façon générale que cette transition vers l'AGI se passe bien en mettant en place des infrastructures pour ça, comme le fait WorldCoin, par exemple.
C'est clair. C'est que si on devait résumer, parce que du coup, si j'ai bien compris, vous êtes un peu associé entre guillemets avec OpenAI. Enfin, Sam Altman a un rôle majeur du coup au sein des deux boîtes, parce que c'est un peu sa vision qui est à l'origine de créer l'AGI et du coup aussi de créer en parallèle du coup une économie qui vient compléter. Si tu devais décrire son influence, elle est comment depuis la création en 2020? Au sein de WorldCoin, du projet. C'est quoi travailler avec Sam au quotidien?
Donc Sam bien sûr focus énormément sur OpenAI, ça prend beaucoup de temps, mais il a beaucoup bossé avec nous c'est un cofondeur à part entière, donc il nous a aidés et principalement par exemple, sur les fundraise où il a été très utile, sur les directions stratégiques aussi, on a beaucoup discuté avec lui. Donc en général, il passe, je dirais, la plupart de son temps sur OpenAI, mais il passe voilà, entre un jour par semaine ou toutes les semaines où il bosse avec WorldCoin directement.
Et qu'est-ce qui t'a appris Sam Altman? Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui et comment tu décrirais son énergie? On a l'habitude de le voir dans les news, mais c'est rare
Il y
d'être
avait
en contact.
déjà. On a quand même vu beaucoup Sam parler dans la dernière année, donc je pense que parce que les gens ont quand même une bonne idée de son message, de son énergie, de sa vision des choses. J'imagine ta question, c'est un peu plus de jour à jour, de façon personnelle et de l'interaction au quotidien. Je dirais que c'est vraiment cette vision de l'IA et de la priorité de l'IA, je l'avais déjà bien avant de rencontrer Sam. Je pense que c'est plus autour de l'exécution, la façon de créer une boîte et comment, enfin, les dynamiques à l'intérieur d'une boîte et comment gérer ça à très grande échelle tout en poussant une vision qui est quand même un peu hors des chemins battus. Et donc, ça a été vraiment. De comprendre les dynamiques autour de ça, ça a beaucoup aidé d'avoir des interactions avec Sam, de façon générale. Et d'un point de vue personnel, je pense que Sam est quand même assez proche de ce qu'il expose, donc il est quand même assez focus et obstiné par la transition à l'intelligence artificielle générale et à s'assurer que cela se passe bien pour le monde. Donc c'est ça à quoi il pense énormément.
Donc, si je comprends bien, c'est créer une boîte pour lui, c'est il crée pas une boîte pour créer une boîte, mais il crée une boîte pour défendre une idée à laquelle il tient beaucoup, quoi. C'est plus un moyen de d'imposer sa vision du monde que un moyen de faire de l'argent ou d'être entrepreneur pour être entrepreneur, si je me trompe pas.
Oui, et je pense que moi c'est toujours aussi comme ça que j'ai vu les choses. Je pense que c'est quand même, surtout là où on en est maintenant à cette époque, avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle générale, c'est vraiment un point pivotal pour l'humanité. Et donc, je pense que c'est encore plus important de créer une boîte dans le but de faire avancer tout ça, encore plus que dans les années précédentes, les dernières décennies, parce que ça va être un moment très pivotal. Et donc, je pense que c'est clé pour lui, c'est clé pour l'humanité de vraiment focus sur ça et pousser la technologie.
D'accord, très clair. Justement, par rapport au processus de création de boîte, on va revenir sur ça. Comment ça se passe comment s'est passé vos rencontres avec les investisseurs pour lever des fonds quand on a un projet aussi fou que celui-là? C'est comment on pitch une idée comme ça et pour les convaincre d'investir?
Il n'y a pas vraiment de secret, hein. C'est de présenter l'idée avec une narrative qui est simple et compréhensive. Donc, c'est très important d'avoir une bonne narrative, une narrative qui est facile à communiquer, à expliquer, ce qui n'est pas évident à faire. Enfin, créer une narrative simple, c'est très compliqué, surtout avec un projet qui est aussi large et aussi peu commun. Donc, créer une bonne narrative, déjà, présenter cette narrative et après c'est vraiment parler à beaucoup de gens, expliquer de façon différente selon à qui tu parles, et c'est juste beaucoup d'efforts pour trouver les gens qui peuvent comprendre ce type de projet et qui sont prêts à investir. Bien sûr, c'est là on a l'avantage d'avoir passé beaucoup de temps aussi dans la boîte en partie à San Francisco, et l'environnement est bien sûr génial pour ça, parce que les gens comprennent très bien les projets qui sont un peu nouveaux et très innovateurs. Et donc, il y a plus de facilité pour lever ce type de capital. Mais tout vient de la narrative, et après la capacité à expliquer cette vision, cette narrative, et après à prouver que l'exécution derrière et en effet, se passe bien et que le projet avance très vite. Donc, c'est très important de prouver, que surtout quand il y a quelque chose avec un projet qui est aussi deep tech, de prouver qu'on a une équipe qui est capable d'avancer très vite et de faire des progrès donc, sur la technologie avec laquelle on bosse très rapidement. Et ça permet de vraiment pousser les investisseurs et convaincre les investisseurs que malgré le fait que le projet soit aussi risqué, ça dérisque dans le projet pour l'investisseur de voir une équipe qui avance très vite. C'est particulièrement important, je pense, dans les projets qui sont à aussi haut risque.
Et sur la capacité à expliquer en fait le projet, parce que je sais que en fait avoir l'objectif d'arriver à l'universal basic income, ça demande beaucoup de calculs économiques. Est-ce que enfin on présente pas un projet comme ça avec un slide PowerPoint? Est-ce que comment vous avez parlé en fait de votre plan? C'était quoi vos arguments et comment vous avez prouvé que c'était possible d'accéder à l'UBI?
Comme je l'ai dit, enfin, je pense que la façon dont tu imagines, je pense pas que c'est la bonne, hein. C'est vraiment expliquer une narrative simple. On n'arrive pas avec des nombres et des documents Excel pour prouver les calculs, parce que ça sert à rien, hein. De toute façon, surtout à cet instant, avec cette dynamique économique basée sur l'IA et les incertitudes autour de ça, prévoir le futur, c'est complètement absurde. Donc, de dire on a fait le calcul dans 25 ans, c'est comme ça que ça va se passer, ce serait complètement débile. C'est des arguments qualitatifs et non pas quantitatifs que tu présentes. Donc, tu présentes une observation de la situation du monde, de ton opinion sur les avancées d'IA et comment ça va continuer, et ta vision autour de ça. Et tout ça est fait avec une narrative très simple. C'est vraiment, on va voir les investisseurs, on leur présente la technologie qu'on a construite, l'orbe, système de scan, scanner à l'échelle globale, l'idée que l'IA va avancer, qu'il va falloir un système identitaire sur Internet, que grâce à ça, on peut créer un système identitaire, qu'on va créer aussi, déployer à grande échelle un nouveau système financier à travers WorldCoin, encore une fois, globalement. Et après, c'est de mettre Kavlo, c'est l'idée que la valeur d'un network est proportionnelle, ou exponentiellement proportionnelle au nombre de participants dans le network. Donc, si on arrive à avoir un network de plus d'un milliard de personnes à travers le projet WorldCoin, il y aura une valeur intrinsèque énorme à ce network juste par le fait qu'il est énorme. C'est vraiment l'idée que voilà, c'est scale. Si tu arrives à scale un projet, tu as une valeur énorme. Et c'est cette narrative très simple qu'on a. C'est voilà, si on scale, on va avoir une valeur intrinsèque énorme. Et donc, c'est la narrative du projet.
J'avais jamais entendu parler, moi, personnellement, avant quelques mois de Walcoin, avant qu'on m'en parle. D'un point de vue vision globale, vous comptez comment pour faire, pour, enfin, vous comptez faire comment afin que, pour que le monde entier en entende parler et sache vraiment l'impact que vous allez avoir? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore assez discret, entre guillemets. Vous avez levé 120 000, vous avez plus de 100 millions, ça, de ce point de vue-là, VC, c'est énorme, mais d'un point de vue mass market, consumer, ce n'est pas encore déployé, ce que je veux dire. Enfin, vous comptez faire comment aujourd'hui pour atteindre chaque humain? Que chaque être humain, même les Apaches au fin fond des contrées américaines et des aborigènes, puisse entendre parler de Worldcoin.
Je pense que tout vient de scale. Donc, une fois que le seul objectif de la boîte, c'est vraiment de déployer à plus d'endroits possible. Et donc, plus on va déployer, plus il y aura un network effect qui va être grand et ça va se communiquer de façon organique autour du monde. On a fait aussi un certain travail de marketing. Je pense qu'on arrive à un point quand même où il y a une grande partie de la population qui a déjà entendu parler de Worldcoin. Peut-être les gens ne connaissent pas en détail, mais il y a quand même énormément de gens qui connaissent le projet. Après, le travail va être vraiment de juste déployer donc les devices qu'on a, les orbes dans le plus d'endroits possible pour permettre aux gens donc de scanner. Et après, ce qu'on fait, c'est un peu plus targeté. C'est en général qu'on déploie vraiment massivement dans une ville, on fait de la communication dans cette ville pour s'assurer que les gens sont au courant, qu'ils peuvent le faire. On le fait moins, bien évidemment, dans les villes où on n'est pas encore actif parce que ça sert à rien. Les gens pourraient pas directement y aller. Donc, ça va se faire. Fur et à mesure du temps, plus on déploie dans de villes, plus on fera la communication spécifiquement dans ces villes. Sinon, la stratégie générale, c'est vraiment de scale et plus on sera grand, plus ça va se propager de façon naturelle.
Très clair, ok. Mais du coup, toi, tu me parles de scale, mais quand on cherche à faire un projet aussi fou, c'est quoi le genre de talent que tu cherches afin de faire un projet afin de construire les fondations d'un projet qui va pouvoir scale? C'est un conseil aussi pour les jeunes startups aussi disruptives que la tienne, par exemple, pour recruter des players, s'entourer, et comment les attirer et convaincre
C'est très dur parce qu'il y a beaucoup de compétition pour trouver les meilleurs gens. Je pense que tout commence par les fondations. Il faut avoir des très bonnes fondations pour la boîte. Donc, déjà que l'équipe initiale soit très très forte, il faut avoir une narrative et une direction qui est assez ambitieuse pour attirer les meilleurs. Il faut avoir un momentum qui est assez rapide pour motiver les meilleurs à rejoindre. Donc, la boîte avance vite. Et après, il faut énormément de travail autour du recrutement. C'est presque ce qui est de plus important pour une boîte, en particulier au début. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus important pour une boîte au début. Donc, il faut passer beaucoup de temps à déjà commencer par recruter autour du network, donc les gens qu'on connaît directement. Ce qu'on a fait énormément au début, c'est de recruter des gens avec qui on avait déjà bossé ou des gens qu'on connaissait déjà et qu'on savait qu'ils étaient très forts. Donc énormément des premières 100 personnes, c'était des gens qu'on avait déjà rencontrés avant et qu'on connaissait déjà. Et bien sûr, bosser énormément après faire ses propres recherches, trouver des personnes, aller leur parler, il faut vraiment aller chercher parce que ça va pas se faire passivement. Et encore une fois, c'est la chose la plus importante au début d'une boîte, c'est le recrutement. Donc beaucoup d'erreurs que les gens font, c'est de passer la plupart de leur temps au début d'une boîte à faire tout et n'importe quoi et passer 5% de leur temps à faire du recrutement. Mais c'est une grosse erreur parce que c'est vraiment ça qui définit ta boîte. Donc il faudrait passer, enfin, tout début, tu passes 50% de ton temps, voire plus, et après tu ajustes au fur et à mesure des années, mais c'est très très important au début.
Et est-ce que pour toi, le fait que tes talents croient au concept de l'AGI et de toutes les concepts impliqués avec Worldcoin soit primordial dans ta décision de recrutement ou tu as plus recherché des compétences sans forcément
J'ai pas recherché spécifiquement des gens qui voient le futur avec les GI, qui sont convaincus d'une timeline short ou quoi que ce soit. Mais bien évidemment, on a exposé l'idée du projet, on a exposé d'où on venait, et donc on a de façon organique attiré plus de gens qui avaient une vision similaire. Et bien évidemment, on préfère avoir des gens qui ont une vision similaire parce que quelqu'un qui a une, qui n'y croit pas du tout, bah ça va forcément avoir de la friction et ça va clasher avec la vision de la boîte. Donc je dirais que de façon très naturelle et aussi parce qu'on préfère, ça a été que des gens qui pouvaient, sans nécessairement y croire à 100% ou être sûr à 100% que de leur côté, à pouvoir vraiment buy-in dans la vision et se dire je vois la direction dans laquelle ça va et je prends la direction dans laquelle ça va.
C'est quoi les traits que tu cherches ou une question que tu poses en entretien classique pour savoir si tu vas recruter quelqu'un ou pas, c'est la bonne personne aujourd'hui dans ton playbook?
Enfin, il y a plein de questions, un stéréotype de questions qui sont très bien. Je ne pense pas qu'il y a des questions spécifiques qui sont magiques. Enfin, il y en a beaucoup qui sont très bien, quoi, mais je ne pense pas qu'il y a une question magique qui permet de tout savoir. Enfin, ce qui est important, c'est surtout la réponse de la personne et la façon dont elle structure la réponse et la personne structure sa pensée. Vraiment, la façon dont la personne approche les problèmes. Je dirais que c'est ça qui est important. Et donc, les questions, tu peux en poser bien, plein. Hein, tu peux les poser. Donne-moi un exemple du projet le plus difficile que tu as fait dans ta vie et de t'expliquer ce projet. Par exemple, dis-moi le truc, la chose la plus illégale que tu as faite, c'est une bonne question aussi, pour voir si la personne peut penser de façon assez différente. Ou alors, tu peux demander à la personne ses intérêts primaires, donc de lisser ses intérêts primaires de façon générale, après de un peu regarder en profondeur, ou par exemple demander à la personne c'est quoi les meilleurs livres qu'elle a lus pour voir les intérêts de la personne, mais c'est plus pour initier des questions ouvertes, pour initier une réponse qui permet de mieux comprendre la personnalité en face de toi, et ensuite de rebondir dessus et d'explorer en plus en profondeur la personne.
Ok. D'un point de vue du coup management, si on va en complément de partie recrutement, vu que toi, t'as pas bossé très longtemps chez Amazon ou TransferWise, mais est-ce que tu t'es inspiré de ces expériences pour structurer ta culture, tes process en interne, ou c'est vraiment tes associés qui ont plutôt pris en charge cette partie?
Alors, enfin, dans toute expérience, tu vas en partie apprendre des choses que tu veux copier ou garder, ou des choses que tu ne veux absolument pas reproduire. Et c'était le cas pour Amazon. Il y a certaines choses qui étaient bien, hein, qui étaient autour de la tech, de la façon d'approcher un projet, de faire de la structure et l'architecture des systèmes et des choses comme ça qui sont réapplicables. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout pour une startup ou qui arrivent dans des boîtes comme ça parce qu'elles deviennent trop grosses et que tu ne vas absolument pas reproduire et donc que tu évites de faire. Mais je dirais que de façon générale, dans notre boîte, la structure a été faite de façon très organique, très itérative, où on s'est adapté au fur et à mesure du temps à une structure. Et en faisant une structure qui était plus adaptée à la période dans laquelle la boîte se trouvait. Et étant donné que la boîte a grandi très très vite, donc on est passé de 0 à 300 plus personnes en 3-4 ans, et ben on a bougé vraiment à travers différentes étapes d'une startup très rapidement. Et donc il fallait être très dynamique dans la façon dont structurer la boîte et la façon dont structurer les équipes et la dynamique interne. On a vraiment évolué ça très rapidement au fur et à mesure des années.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré pour établir cette dynamique ou un blog ou c'était juste...
Il n'y en a pas de particulier. J'ai lu et observé beaucoup de choses et je me suis inspiré un peu à droite, à gauche de différents styles de management, différentes organisations start-up. C'est ce qu'on a fait dans la boîte. Je ne pense pas qu'il y en a un spécifiquement qu'on a copié à la lettre, encore une fois. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de faire ça parce qu'il faut s'adapter aux problèmes actuels que tu as. Et il n'y a pas deux compagnies qui sont là à exactement la même période et qui ont exactement le même problème et qui ont exactement la même culture interne, une background culturelle des gens. Et donc, je pense pas que c'était une bonne idée de juste copier exactement un modèle. C'est ce qu'on a fait, on s'adapte au modèle qui existe déjà, mais on n'a pas du tout copié quelque chose qui existait déjà.
Du coup, l'unicité, c'est vraiment clé pour créer des boîtes de ce calibre. Maintenant, plus d'un point de vue produit, on sait que Worldcoin veut créer un produit, enfin, de Tools for Humanity, pardon, veut créer un produit qui a une reach mondiale. Comment on fait pour créer un produit avec des ambitions aussi grosses dès le départ? Parce que, en général, les gens, la majorité des startups vont créer des produits, vont essayer de trouver leur product market fit et se concentrer sur vraiment une niche dès le début. Mais est-ce que vous avez directement cherché à créer un produit qui pouvait atteindre tous les humains sur Terre ou, et si oui, comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez priorisé dès le début?
Donc, ça a été l'idée. Enfin, dès le départ, l'idée, c'est de créer un système identitaire global. Donc, c'est ce qu'on veut faire, c'est donc créer cette nouvelle infrastructure de l'Internet qui n'existe pas. Et donc, le but, c'est d'atteindre tous les humains. Bah, je dirais que c'est une stratégie un peu différente parce que on parle pas d'un product market fit spécifique et ensuite d'itérer à partir de ça. Nous, on part sur une thèse qui est un peu il y a une utilité fondamentale et une importance de créer ce projet. Donc, c'est vraiment aussi énormément mission-driven. Et donc, il faut le mettre en place et que l'utilité arrivera et sera de plus en plus évidente plus on grandit et que vraiment la scale va apporter de plus en plus d'utilité. Donc, il y a vraiment très peu de ce qu'on ferait de façon conventionnelle, de faire du produit market fit, vérifier que tout le monde est d'accord et ensuite de scale. Je pense que c'est assez similaire pour beaucoup des plus gros projets. Hein. OpenAI a fait pareil, hein. Ils ont construit quelque chose qui, pendant beaucoup d'années, n'a pas été utilisé et il n'y a eu aucun feedback du marché. Et ensuite, on a pour relire quelque chose qui a été utile pour le monde. Ben, nous, on fait pareil, on a une thèse sur quelque chose qui serait utile pour le monde et on n'a pas fait la phase initiale de vraiment produit market fit. On est parti avec la conviction et on a poussé le projet à atteindre des échelles qu'on pensait suffisantes pour prouver l'utilité du projet.
Et par rapport à la dimension protection des données, comment vous avez géré cette partie avec votre produit et comment vous avez adressé les différentes réglementations à l'échelle de chaque pays dans lesquels vous avez lancé et vous voulez lancer?
Donc, comme je l'ai mentionné, on a grandi très très vite, on a avancé très vite, enfin, on a monté tout ça en 4 ans en partant de rien. Et on essaye aussi de déployer dans tous les pays du monde, ce qui veut dire qu'on doit interagir avec toutes sortes de régulations, toutes sortes de gouvernements, des cultures très différentes et des approches très différentes. Et donc, il n'y a pas de solution magique, encore une fois, de faire un plan très carré, de suivre ce plan à la lettre, parce que c'est pas comme ça que ça marche quand tu fais de l'opérationnel. Ce qu'on fait, c'est qu'on a itérativement découvert c'est quoi les points de friction, les choses sur lesquelles il fallait se concentrer, et donc on a vraiment réajusté la stratégie et la direction de façon continue. Donc, par exemple, un des points très importants était privacy, sur lequel on a mis l'accent et on a rajouté beaucoup de choses autour de la privacy. Ensuite, par exemple, on a passé beaucoup de temps à parler avec les autorités locales, les Data Protection Authority, pour communiquer le projet, communiquer la technologie avec laquelle on travaillait, communiquer les subtilités de cette technologie, parce qu'on travaille avec beaucoup de cryptographie, par exemple, on travaille avec beaucoup de manipulation de données de façon cryptographique, et c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est du state of the art. Et c'est donc à la pointe de la tech et ça prend du temps à communiquer ça, à le communiquer bien et à s'assurer qu'il n'y a pas d'incompréhension. Donc on a dû passer beaucoup de temps à faire ça. Et tout ça, on l'a appris au fur et à mesure du temps en allant sur le terrain, en opérant et on se rend compte au fur et à mesure du temps des choses spécifiquement sur lesquelles il faut se concentrer.
Ce serait quoi du coup, si je devais résumer, le futur de Worldcoin aujourd'hui? Parce que votre but, c'est d'onboarder 1 milliard de personnes, il me semble, enfin 8 milliards, mais commencer à 1 milliard, c'est quoi le. C'est, tu vois comment le futur dans les 3 prochaines années de Worldcoin?
Le gros focus de Worldcoin dans les prochaines années, ça va être de scale. C'est vraiment de pousser la boîte pour qu'elle grandisse le plus possible Et c'est vraiment ce qu'on va faire dans les prochaines années, c'est focus sur scale et d'arriver le plus vite possible déjà à 100 millions et ensuite à 1 milliard. Et je pense que ça va être le narratif principal dans les prochains mois et années.
Challenge assez ambitieux. On te souhaite de réussir. Et on croit beaucoup en ce projet. Juste pour finir, on a quelques questions un peu plus personnelles. Si tu devais parler au Saturnin de 2014 à la sortie du lycée, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire et quels conseils tu lui donnerais en sachant ce que tu sais aujourd'hui?
Je pense pas que je lui donnerais de conseils particuliers. Enfin, de façon personnelle, j'ai pas vraiment de regrets sur ce que j'ai fait. Je vis pas une vie où je vais avoir du regret. Donc, enfin, si je fais des erreurs, je trouve que c'était bien de les faire. Si j'ai fait des bonnes choses, ben, je les referai. Mais je pense pas que j'aurais de conseils particuliers par le fait que j'ai pas de regrets.
Et c'était un conseil à un jeune qui veut se lancer après les études et disrupter le monde comme toi tu l'as fait. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
De pas écouter les conseils et de parce que c'est overrated et de surtout s'adapter à sa façon de voir le monde, la façon dont tu fais les choses. Mais je pense que l'erreur que fait enfin, les erreurs que font beaucoup de jeunes, c'est et de moins jeunes d'ailleurs, c'est d'écouter beaucoup trop à la lettre les conseils des gens. Alors qu'un conseil, c'est un contexte d'une certaine personne, une certaine époque dans laquelle elle a été appliquée, un écosystème dans lequel le conseil a été appliqué, et de prendre les conseils à la lettre et de les réappliquer sur soi, je trouve que c'est une énorme erreur. Et donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre des informations de partout, des conseils, mais les filtrer très lourdement et ensuite extraire de ces conseils ce qui est utile à la personne, ce qui est applicable à la personne et à ses objectifs. Et donc, mon conseil, c'est de faire gaffe aux conseils surtout.
Beau conseil.
Très beau conseil.
Pour finir, est-ce que tu as un livre, un film, une série que tu recommandes à nos auditeurs en dehors de Avengers, l'ère d'Ultron?
Un film ou une série. Je pense qu'il y a beaucoup que j'ai beaucoup aimé. Je pense que la série que j'ai plus appréciée, c'est sûrement un animé, c'est Attack on Titan. Je trouve que c'était une des séries les mieux écrites que j'ai regardées.
Ouais, j'ai un fan d'animé aussi, je
On
connais.
a beaucoup aimé.
Ok.
Bon, bah, merci beaucoup, Saturnin, pour ton temps.
On te souhaite
Bah, merci à
vraiment
vous, hein,
de
c'était
réussir
génial.
dans tes projets qui sont assez fous. On espère que ça débouchera avec une vision de l'AGI plutôt option 1, que les humains puissent se détendre et gagner plus d'argent sans être forcément tués ou malades à cause de virus développés par l'AGI. Donc voilà, ok, merci beaucoup, et on se dit à très bientôt sur Zero to One.
Merci
Merci
beaucoup,
à
c'est dur.
tous.
Merci à vous.